Julien.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RCJ sur le 94.8, sur le DAB+, sur notre application RCJ et sur le site internet www.radio-rcj.info. Une nouvelle résistance contre Israël va émerger en Syrie. En dépit de la chute de l'ex-président Bachar al-Assad, a affirmé un haut responsable iranien proche de l'ayatollah Ali Khamenei. La Syrie de Bachar al-Assad a été pendant des décennies, pour rappel, un proche allié de Téhéran et un membre clé de son axe de la résistance. Les autorités talibanes au pouvoir en Afghanistan doivent annuler l'interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour des ONG, a déclaré le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk. Après sa visite à Mayotte, François Bayrou, le Premier ministre, s'est exprimé depuis la Réunion. Vous ne pouvez pas accepter qu'une personne sur quatre dans une ville française soit en situation irrégulière, a-t-il déclaré au sujet de l'immigration illégale en provenance des Comores. Mayotte a des atouts, elle ne peut pas être ensevelie sous les bidonvilles, a-t-il ajouté. Et enfin, en attendant l'adoption d'un budget pour 2025, le gouvernement a reconduit les autorisations d'engagement ouvertes par la loi de finances initiale de 2024 par un décret publié ce jour. Dans un instant sur RCJ, retrouvez Essentiel, votre rendez-vous culture avec Sandrine Seban qui recevait Peggy Sastre pour son livre « Ce que je veux sauver » aux éditions Anne Carrière. On se retrouve quant à nous à midi pour l'information.
Vous souhaite de belles fêtes de Hanouka. Que la lumière éclaire toujours notre avenir et guide nos actions.
Grâce à vous, nous construisons une jeunesse éduquée et engagée. Un réseau d'écoles solide. En Israël, le FSJU aide les enfants traumatisés, soutient les réfugiés avec dignité et espoir. Alors, restons forts, unis et solidaires.
Donnez maintenant sur don2024.fsju.org.
don2024.fsju.org.
Attention, votre don doit être fait avant le mardi 31 décembre.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Bonne journée sur RCJ. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Essentiel, ce que je veux sauver. C'est le nouvel essai de Peggy Sastre, paru aux éditions Anne Carrière. Peggy, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et essayiste. J'aime bien dire essayiste, parce que du coup, ça m'évite de dire écrivaine, ce que je ne supporte pas. Je ne sais pas si vous, vous êtes...
On va être... Pour l'instant, on est d'accord, parce que pareil, je déteste écrivaine.
C'est moche. Ouais. C'est moche. Pourtant, nous sommes féministes, vous comme moi, j'ai l'impression d'un féminisme un peu différent de certains aujourd'hui. C'est une partie du livre, mais ce n'est pas que cela. Ce que je veux sauver, Peggy Sastre, je vous le disais hors antenne, j'ai été alertée en hurlant au génie de ce livre par Sophie Aram, je crois en premier, puis plein d'autres gens très bien, et puis le directeur général de cette bête maison, Richard Audier, qui est un excellent lecteur, il dit même que c'est son principal métier quasiment comme moi, donc Je suis partie avec des a priori très très favorables, Peggy, et c'est peu de dire que ces a priori se sont transformés en certitudes. C'est un livre extrêmement, par moments, déstabilisant, qui à la fois nous fait du bien parce que il nous aide à penser, ce qu'on ne fait plus beaucoup depuis le 7 octobre 2023, non pas parce qu'on ne veut plus penser, on sait qu'il faut penser et qu'il va falloir continuer à penser, mais parce qu'on a du mal et parce que la pensée s'arrête parfois à certains endroits et surtout à certaines visions et à certaines horreurs vues et entendues. À quel moment vous vous êtes dit, et c'est ce trajet qu'on a tous fait, mais de manière un peu différente depuis un peu plus d'un an, qu'on fait également avec vous. À quel moment, Peggy Sasse, vous vous êtes dit ce que je vis, ce que je ressens, ce que je réfléchis, je vais le traduire dans un livre ?
Chronologiquement, je dirais un bon mois après le 7 octobre, parce qu'en fait, à l'origine, ce livre, vraiment deux ans avant de l'écrire, enfin deux ans avant de début 2022, c'était une commande de mon éditeur que j'avais acceptée, hein, que je trouvais son idée très bonne. Il m'avait dit, toi, t'es connu pour la critique du féminisme, mais on sait pas ce que tu penses positivement. Mmh. Et j'étais tout à fait d'accord avec cette commande, j'allais le faire, etc. Donc je vous passe les détails. Un gros détail, c'est que quelques semaines après, j'allais accepter un CDI au point.
Oui.
Donc j'étais plus du tout aussi libre de mon temps. Donc j'ai procrastiné. On arrive en novembre 2023. J'étais très fière, enfin, très contente parce que j'avais pris un mois de vacances. Tout était dans les tuyaux. J'allais faire ce livre, le livre tel qu'il m'avait été commandé. Et le problème, c'est que est arrivé le 7 octobre, et à la fois j'avais pu écrire positivement, c'était difficile, même écrire tout court, c'était difficile, et écrire positivement sur le féminisme, c'était encore plus difficile parce que là, je crois que les féministes orthodoxes, je dirais, se sont surpassés dans le grand n'importe quoi. Et donc pour répondre à votre question, donc c'est un mois après 7 octobre que je revois mon éditeur, je lui dis ben voilà la commande que tu m'as passée là, dans l'immédiat, j'ai pas pouvoir la faire, et donc on discute pourquoi. Donc je lui raconte mon malaise, etc. Il me dit ben voilà, raconte ça, et c'est ce qui a donné ce livre.
Ce qui a donné ce livre. Le livre démarre, alors il y a plusieurs chapitres, ces chapitres ont tous des prénoms. Pourquoi ?
Bah parce que c'est des gens qui sont importants pour moi. La majorité, ce sont des prénoms d'intellectuels, donc il y a Stéphane Zweig, il y a Salman Rushdie, il y a Camille Paglia, Benjamin Ferencz. À la fin, les trois premiers prénoms sont trois otages femmes du 7 octobre, celles qu'on a vues très tôt sur les images.
Il y en a une qui est devant nous, là.
Voilà. Et on peut pas vraiment. J'ai pas vraiment réfléchi à pourquoi poser des prénoms comme titre de chapitre, mais a posteriori, ça me plaît bien dans l'idée que c'est une sorte d'autobiographie intellectuelle, mais aussi très personnelle. Oui. Et le prénom.
Le prénom, ouais. Voilà, vous avez très bien répondu. Alors, le premier chapitre, effectivement, c'est avec ces quatre prénoms. Naama, Shani, Noah et Braha. Et vous racontez ce début de 7 octobre 2023 et vous vous attardez sur les images. Vous racontez quelles sont les premières images que vous avez vues. On a tous, globalement, je crois, vu à peu près les mêmes. Moi, je sais que c'était l'image de ce pick-up blanc dans des
rôles.
Et on se dit... Ça n'est pas possible. Mmh. Ils ne peuvent pas être à l'intérieur d'Israël. Ils ne peuvent pas être à Sderot. Mmh. Et on comprend que si. Donc, vous racontez ces premières images et vous parlez de l'importance de ce que vous appelez les attentats visuels. Mmh. En disant le premier attentat visuel, c'était le 11 septembre. Et vous expliquez quelque chose de très important que je n'avais jamais lu non plus ailleurs. C'est sur le timing de l'attentat du 11 septembre. Mmh.
Bah ça, je le cite et je le reprends d'Abnous Chalmani. Je crois que c'est elle aussi sa première chronique après le 7 octobre dans l'Express, où elle explique, enfin, elle explique très bien, c'est d'ailleurs pour ça que je la cite de manière assez massive, que l'idée d'Oussama Ben Laden, c'était pas tant de faire le maximum de morts, mais que le maximum de gens le voient. Mmh. Et voilà, c'est ce qu'elle explique. Hein.
C'est la racine, entre guillemets, du mot terrorisme. C'est terreur, c'est terroriser.
Terrifié. Et justement, d'arrêter ce qu'on disait tout à l'heure, d'arrêter la pensée, d'arrêter même le langage. Moi, ce qui a été très dur dans ces jours après le 7 octobre, c'est que déjà naturellement j'ai du mal à parler, mais là c'était encore pire, c'était le langage n'était plus là, quoi.
Le langage n'était plus là, mais rassurez-vous, même pour ceux qui ont l'habitude de parler, on était dans la même équipe, le langage n'était plus là parce que les mots n'étaient plus là, ou parce que les mots finalement n'existaient pas,
parce que c'était plus possible d'articuler, et articuler dans les deux sens, hein. Articuler sa pensée et articuler, voilà, que ça sort de la bouche de manière à peu près claire. Et comme je dis dans le livre, certes, le 7 octobre a été atroce, mais le plus atroce, c'était les réactions. Et le fait que ça soit immédiat, c'est ce que dit très bien Eva Elouz dans son nouveau livre, enfin, ce petit livre, le tract qui vient de sortir chez Gallimard, qui s'appelle 8 octobre, sur la haine vertueuse. Elle dit les Juifs et les Israéliens n'ont même pas eu une demi-journée de compassion. C'est tout de suite un truc qui a été un espèce de jalon, c'est ce communiqué du NPA qui arrive l'après-midi du 7 octobre, écrit en écriture inclusive, et pour dire qu'ils défendent tous les moyens de lutte des Palestiniens, quoi.
Ce n'est pas à eux de choisir les moyens de lutte du peuple palestinien.
Donc le ridicule de l'écriture inclusive, genre, est-ce qu'il y a des non-binaires à Gaza? Je ne pense pas.
Ils tiennent pas longtemps, en tout cas.
Oui, c'est ça. C'est, en tout cas, ils ne tiennent pas longtemps. Et le double contresens de lire ça comme une action de lutte pour les peuples palestiniens, alors qu'il n'y a rien qui nuit plus aux Palestiniens que le Hamas. Et les moyens de lutte. Alors on parle d'un massacre. Enfin, vous voyez, on sait ce que c'est. Enfin, c'est... Encore aujourd'hui, voilà, les mots ne viennent pas. C'est tellement sidérant que le cerveau bloque.
Le cerveau bloque. Alors, ouais. votre plume ne bloque pas, même si j'imagine ce qu'il a fallu de temps ou de réaction ou d'enchaînement pour écrire. Et vous le dites, Peggy Sastre, dans Ce que je veux sauver, à un moment donné, vous écrivez au lendemain du 7 octobre, après les femmes violées près des cadavres de leurs amis et exhibées dans les rues, les bébés égorgés. Une survivante nonagénaire de la Shoah extirpée de son lit, traînée par les cheveux et exécutée d'une balle dans la tête. Les femmes enceintes éventrées, les fêtards agglutinés dans un abri de béton débusqué à la grenade. Les chiens mitraillés alors qu'ils voulaient protéger leur maître. Les familles entières brûlées vives alors qu'elles voulaient fuir. Les villages littéralement décimés, leur population ayant été assassinée à raison d'un habitant sur 10. Vous continuez là comme ça pendant une page quasiment. Et à la fin vous dites vous dites, après que tout cela fut étalé, attesté, documenté, et ce, contrairement aux nazis, sans le moindre début de commencement d'envie, de dissimulation, d'effacement des faits, des traces, il y en eut, et il y en a encore, et j'aurais envie d'ajouter, il y en a de plus en plus, voilà, pour n'y voir que les moyens de lutte, la dernière marque en date de résistance du peuple palestinien opprimé. Vous dites un cas d'école, pour ne pas dire clinique, de justification morale. Quand on lit le début de ce que vous avez écrit, à un moment donné, on se dit, j'ai l'impression de lire un livre d'il y a 75 ans.
Bien sûr, ouais.
On est exactement dans les mêmes termes.
Oui, oui. Ben c'est ça, c'est ce qui fait que le dernier chapitre est dédié et parle de l'action de Benjamin Ferengs, qui était l'un des procureurs du procès de Nuremberg, et plus précisément des Einsatzgruppen, donc les commandos nazis de la mort, qui ont pour le coup dans leur mode opératoire, ça ressemble. Moi, ça m'a fait penser tout de suite à ce que les gens du Hamas ont fait le 7 octobre. Et c'est l'une des premières pensées à peu près articulées qui m'est venue après le 7 octobre. C'est on a littéralement reculé de 80 ans. Tout le progrès, toutes les normes, tout l'avancement, tout le processus civilisationnel qu'il y a eu depuis 80 ans, en 15 secondes, a été annulé.
Et même l'après, la pensée de l'après. Oui. Choix a été annulé puisque ce processus, comme vous dites, de compassion envers les Juifs après la période de on veut pas savoir, de on les croit pas, ah bah, s'ils sont revenus, c'était pas si terrible que ça. Enfin voilà, après toute cette période là, il y a quand même eu la phase aussi. Alors c'est là-dessus que vous revenez beaucoup dans votre livre, et c'est en cela aussi que c'est une pensée différente on avait dit plus jamais ça, mais finalement le ça est revenu. Et finalement, est-ce que tout ce qu'on a fait depuis 80 ans, et c'est un des débats et une des inquiétudes perpétuelles de notre génération, même si je crois que vous êtes un peu plus jeune que moi, c'est se dire, est-ce que c'était, entre guillemets, la bonne méthode? J'ai tout posé en vrac, débrouillez-vous.
Oui. Non, mais pour revenir aussi, ce qu'on a perdu, le retour en arrière depuis 80 ans, et c'est aussi ça aussi que j'ai envie de poser dans le dernier chapitre sur Benjamin Ferencz, c'est justement, à Nuremberg a été démonté l'argument de l'attaque préventive. Parce que c'est, voilà, les nazis en général et des Einsatzgruppen en particulier. Pourquoi est-ce qu'ils, comment est-ce qu'ils ont justifié de tuer les femmes, les enfants, etc. C'était, si on ne le fait pas, ils vont nous attaquer. Ils vont s'allier avec les Russes. C'est une extermination préventive pour nous défendre nous. Et donc ça, voilà, je peux pas là à l'oral refaire le détail des arguments juridiques qui ont été posés à Nuremberg. Et ça, on l'a retrouvé 2, 3, 4 heures après le 7 octobre. C'est cette attaque préventive, c'est la colonisation, c'est l'impérialisme, tout ce qu'on a entendu. Et pour revenir sur votre question, est-ce que c'était la bonne méthode? Je le pense encore, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'était justement dérouler les fondements intellectuels, justement, que cette méthode est encore aujourd'hui bonne et devrait être à refaire
et être appliquée. Alors vous le dites, Peggy Sastre, au début du livre, vous dites, parce que je suis libérale, fruit, produit et progéniture des Lumières, ayant donc chevillé au corps le bien fondé, non la supériorité de leurs principes. Tout ça voulait dire que vous étiez encore, comme nous, comme beaucoup avant le 7 octobre, dans une certaine illusion, dans laquelle nous ne sommes plus,
oui.
Et dans laquelle nous ne pouvons plus être.
Illusion, naïveté, ignorance, dans le sens où je pense que l'un de nos problèmes en tant que civilisation libérale, c'est qu'on ne sait pas assez contre quoi notre modèle libéral justement nous protège. Et souvent, je fais l'analogie avec les vaccins, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'anti-vaccins, mais parce que justement, les maladies contre lesquels les vaccins protègent ont disparu. Donc voilà, c'est ça. Donc les gens n'ont pas, voilà, il y a de moins en moins de familles qui dans leur chair connaissent quelqu'un qui a eu la polio. Comment le monde était avant les vaccins?
Il y a pas de moins en moins de juifs, mais disons qu'il y a moins de juifs qu'à une époque, et il y a pourtant tout autant, enfin même plus d'antisémites.
Oui, mais là où je file la métaphore, c'est que on a en tout cas de moins en moins la mémoire de qu'est-ce que c'est de vivre dans des sociétés qui ne sont justement pas libérales. Cette espèce d'accoutumance au confort, au fait que voilà, quand les menaces, quand les dangers, quand les risques de destruction sont là, on les voit mal.
Alors vous racontez, Peggy Sastre, aussi ce que j'ai lu, je crois, dans quasiment tous les livres depuis le 7 octobre et tous ceux que j'interview. On parlait des illusions perdues, on a parlé des amis perdus.
Ouais.
Anne Goscinny, qui était là quelques jours avant vous, me disait « j'ai perdu des amis, j'ai perdu des illusions ». J'avais l'autre écrivain, Dan Frank, qui était là, qui me dit « je me suis engueulée avec plein d'amis de gauche ». Gauche extrême avant une époque, et vous vous dites pareil, des vrais amis, des gens avec qui j'étais en relation depuis longtemps. Voilà, vous dites, je suis incapable aujourd'hui de les revoir.
Oui, c'est ça. Je suis. Pour le coup, moi, je me suis pas. Enfin, il y a quelques-uns, quelques-unes avec qui ça a été une vraie engueulade, mais la majorité, c'est vraiment. Enfin, c'est ce que j'ai écrit dans le livre, c'est je me sais incapable de les revoir. Sans avoir envie de leur péter la gueule. Mmh. Et donc, je me suis moi-même extrait de leur relation amicale. Mais pour le coup, sans dispute, sans argumentation. Et j'ai même envie de dire que ça manque, en fait, parce que dans la dispute, on peut toujours espérer qu'il y a eu, en gros, comment dire, quand on s'engueule, c'est quand on s'engueule qu'on voit où est le problème.
Ouais, qu'on voit le niveau du problème.
C'est ça, qu'on voit le niveau du problème. Et là, je trouve que on a tellement passé un seuil que c'est encore une fois, les mots sont impossibles, l'articulation est impossible, même au niveau conflictuel, parce que on en est à un niveau où c'est même plus la dispute, c'est du eux ou nous, en fait.
C'est ça.
Ouais.
C'est notre existence.
C'est
pas notre existence ou la leur, parce que eux, leur existence n'est pas menacée.
Oui.
C'est est-ce que tu reconnais le droit à mon existence?
Oui, c'est je pourrais pas mieux le dire. C'est la prise de conscience. Après, comment dire? J'essaie toujours de m'auto-rationaliser, de me dire est-ce que c'est vraiment une prise de conscience, est-ce que c'est pas de la paranoïa, est-ce que j'analyse vraiment, est-ce que je vois vraiment les choses comme elles sont, etc. Mais c'est vrai que c'est très difficile de ne pas avoir cette impression que c'est notre ou enfin une l'existence d'une certaine partie de la population pour beaucoup de gens ça serait mieux, enfin c'est l'autre chose aussi qui m'a beaucoup choquée après le 7 octobre, c'était je raconte cette émission sur France Culture où il y a un intellectuel palestinien, un cinéaste palestinien Khoury, qui de manière très naturelle dans la conversation, il était face à Valérie Zenati et Johann Sfar, il dit en fait le problème fondamental c'est l'existence d'Israël. Et le 10 octobre.
Je renvoie au prochain livre de Johann Sfar qui va sortir au mois de janvier, qui est grosso modo autour de qu'est-ce qu'on fait des Juifs, parce que finalement ça leur simplifierait tellement la vie effectivement si on n'était pas là. Alors dans votre essai Peggy Sastre que je veux sauver, édition Anne Carrière, il y a toute une partie aussi des réflexions alors sur le wokisme et le féminisme, on va y venir, mais aussi sur la liberté d'expression. Vous revenez sur Charlie Hebdo et vous dites à quel point effectivement l'attentat contre Charlie a été un des chocs importants pour vous et du même calibre effectivement que le 7 octobre. Sur toute la liberté d'expression, c'est vraiment extrêmement intéressant et je l'ai dit différent de la pensée qu'on peut voir partout. Vous dites la liberté d'expression, c'est aussi se rendre compte que c'est le droit d'être entendu. J'ai le droit de m'exprimer, mais c'est surtout aussi le fait que l'autre, même si on n'est pas d'accord, puisse, et surtout si on n'est pas d'accord, puisse être entendu.
Le droit d'être entendu et le droit d'entendre aussi et la possibilité d'entendre et le fait de ne pas se dire comment dire de ne pas être convaincu des pensées qu'on va avoir ne pas croire que avant que les pensées soient exprimées on puisse savoir quelles vont être les conséquences intellectuelles, etc. et c'est ça qu'avait très bien compris le modèle américain de la liberté d'expression, c'est que quand on censure une idée, donc en général quelque chose qui nous paraît abject, etc., on censure aussi la possibilité de lui répondre.
Oui.
Ouais.
C'est dans cet esprit-là voilà. aussi que vous parlez. Alors, c'est une réflexion aujourd'hui qu'on ne peut plus avoir tellement en France parce que si on a cette réflexion-là, on tombe dans un autre travers. Mais vous dites aussi la question de la différence entre la liberté d'expression aux États-Unis et en France. Vous dites à un moment donné, l'antisémitisme et le complotisme n'ont jamais été aussi cool depuis que des glands comme Dieudonné et Foral ont multiplié les condamnations pour se poser en martyr de la bien-pensance. Entre guillemets, je cite Peggy Sass, que comme j'ai déjà eu un procès avec un des deux, mais donc là comme ça, s'il y a reprocès, on y va ensemble, ma grande. Okay. Alors là-dessus, l'antisémitisme et le complotisme, cool. Oui, donc et je fais l'avocat du diable. Si on était sur une liberté d'expression à l'américaine, ce serait pire.
Non, pas. Enfin, ça serait. En tout cas, ce que dans l'état actuel des connaissances, les recherches qui ont été faites. Notamment de Jacob Amshanga que je cite dans le livre sur la comparaison des différentes législations relatives à la liberté d'expression dans les pays très pour le coup autoritaires sur ces questions comme la France où on censure beaucoup de choses et à mon goût beaucoup trop de choses c'est contre-productif. C'est la haine augmente, la discorde civile augmente, et ça c'est toutes les recherches que je cite sur la période pré-nazie. Le problème, avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, il y avait en Allemagne énormément de lois de contraintes des discours, et en fait les nazis s'en sont servis comme promotionnel. L'un des plus grands, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'un des plus grands meetings nazis, c'est, je ne me rappelle plus son nom, 1 million de personnes dans les rues de Berlin, c'est un mec qui est en procès. Et c'est pour ça que je dis en l'état actuel des connaissances, parce qu'il semblerait que cette façon de sanctionner les choses, c'est-à-dire sanctionner les discours, et pas uniquement comme le pose le modèle américain, sanctionner seulement quand il y a un appel direct et immédiat à la violence physique. Contrainte de la liberté d'expression maximaliste et contre-productive, en fait, augmente le mal qu'elle croit résoudre par ce genre de législation.
Alors, je comprends ce que vous dites, et vous l'expliquez très bien dans le livre, vous dites même à un moment donné, la répression d'une idée ne la fait pas disparaître. Néanmoins, par rapport à l'époque pré-nazie, avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, et aujourd'hui, j'ai envie de dire, le problème est multiplié par autant de millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, et qu'il faudrait... si on les laisse parler autant que les libertés d'expression américaine, chaque idée dingue ou chaque négationniste ou machin qui est libre de parler est libre aussi de convertir entre guillemets d'autres personnes. Donc leur répondre, je suis d'accord avec vous, je comprends bien, mais comment on fait quand la masse est à ce point-là?
Moi, je pense que c'est l'inverse, en fait. C'est que plus les idées abjectes dans ce genre sont à découvert, plus on voit leurs limites. Et en fait, moins elle convainc. Aujourd'hui, sans parler des discours antisémites, si on reste sur les discours relativement anodins comme les complotistes, etc. Ça marche que dans de très petites marges et de gens qui ont à la base un tempérament radical entre guillemets. En fait, les discours extrémistes ont un très petit pouvoir de persuasion. Et ça, c'est très contre-intuitif, mais pour le coup, pareil, il y a tout un arsenal d'études qui vont dans ce sens-là. Et à l'inverse, quand on les censure, c'est là qu'on attire l'attention sur ces discours de gens qui autrement, les aurait ignorés.
Alors, je comprends ce que vous dites, mais c'est tout un, et c'est ce qui est très intéressant dans votre livre, Peggy Sass, c'est tout un mode de fonctionnement ou un mode de pensée dont on se rend bien compte aujourd'hui, j'ai envie de dire à contre-cœur même, mais on s'en rend compte, qu'il ne fonctionne plus et qu'il ne peut plus fonctionner post 7 octobre. À un moment donné, vous parlez, c'est un chapitre entier, en tout cas qui porte son prénom, de Stéphane Zweig, et vous racontez, vous citez une de ses nouvelles qui s'appelle le wagon plombé, et où il raconte aussi, dans, vous dites que ce texte avait été conçu pour Les heures étoilées de l'humanité, recueil dans lequel Zweig reconstruit les journées qui ont changé le cours de l'histoire. Alors lui, il parle de la prise de Byzance par les Ottomans, on est en 1453, l'écriture de la Marseillaise, ça c'est joli, 25 avril 1792, et Lénine qui va quitter la Suisse pour Moscou, 9 avril 1917, donc on est avant la révolution de 1917. Vous, si vous aviez dû écrire ou dire la même chose, ces journées qui ont changé le cours de l'histoire. Ce qui serait terrible, c'est que malheureusement, si on se fiait aux dernières années, ce ne serait que des dates terribles de 11 septembre 2021, de Charlie Hebdo, d'Hyper Cacher, de 2012, l'attentat contre l'école juive de Toulouse, et de 7 octobre 2023, c'est terrible de se dire ça.
Ah oui, c'est terrible, oui. Et ça dit aussi la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle j'ai fait ce livre et que je l'ai intitulé « Ce que je veux sauver », ça fait comprendre que notre système, notre modèle, qu'on croyait peut-être pas invincible, mais en tout cas durable et solide, s'effondre.
Qu'est-ce qu'on fait qu'on reconstruise alors à la place ? Qu'est-ce qu'il faut reconstruire à la place ? Parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à se dire que ça s'effondre. Je ne sais pas combien de temps il nous faudra. D'abord, combien de temps il nous faudra pour réellement réaliser le 7 octobre 2023 ? Je crois qu'on n'y est pas encore. Et combien de temps il faudra pour reconstruire tout cela ?
C'est ce que j'essaye à mon petit niveau de faire avec ce livre, c'est de encore une fois, je me répète, de prendre conscience de manière très matérielle, pragmatique, de l'efficacité de ce modèle, de son pouvoir de protection, de son pouvoir de progression, dans le sens ça nous améliore la vie en fait, sur des critères très basiques, où est-ce qu'on est le plus heureux, où est-ce qu'on est le plus riche, où est-ce qu'on est le plus en meilleure santé, ce sont dans des sociétés libérales. Et cette reconstruction, comment dire, cette reconstruction sera, à mon sens, d'autant plus facile. Je ne sais pas si c'est un bon mot facile, mais en tout cas, je vais continuer là-dessus. Voilà, de comprendre l'efficacité de la chose, quoi.
Pégissa, pour continuer ce qu'on disait, il y a effectivement dans le livre également, vous dites dans les périodes de crise, on finit souvent par poser cette question. Et vous, quand avez-vous pris conscience que quelque chose est en train de basculer? Le fameux passage encore entre l'avant et l'après. Il y en a eu plein ces dernières années, le point de basculement.
ce que je raconte dans le livre, et pour le coup, c'est pas un effet entre guillemets littéraire, c'est vraiment cette conversation que j'avais eue avec un collègue journaliste. Donc on parlait, ça c'était post Charlie Hebdo, comment est-ce que dans le milieu journalistique qui est censé être libre, ouvert, tout le monde peut se parler de tout n'importe quoi, on avait senti une contraction des choses et le début des camps qui se forment. Je lui avais fait remarquer que moi j'avais perçu dans son écriture, dans les articles qu'il postait, quelque chose qui était devenu de moins en moins polémique. Et donc je lui avais demandé est-ce que c'est une autocensure, est-ce qu'on te l'a demandé, etc. Et non, il m'avait dit non, c'est de moi-même, c'est de moi-même que je ne veux plus faire de que je veux me focaliser sur des sujets à charge polémique faible. Je crois que je me rappellerai toute ma vie de cette formule. Et il finissait la conversation. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de journalistes et d'intellectuels en général sous protection policière.
Oui.
Ouais.
Et donc, pour rester sur les sujets à charge polémique faible, mais si on avait envie d'en rire un petit peu, il y a quoi comme sujet à charge polémique faible aujourd'hui? Il n'y en a plus. Parce que quel que soit le sujet que vous évoquez, c'est le bordel partout. Donc, moi, je veux bien, mais je veux dire.
On peut parler peut-être des chiens, je ne sais pas,
chiens,
non.
Même pas
des chiens, c'est chiens, là qu'on peut
après,
se
vous allez partir sur la proposition de loi de Caron. On peut trouver sur vrai. Tout, quoi. Il ouais. n'y a pas de charge polémique faible. Et vous redites un peu plus loin. Vous dites une ancienne journaliste qui vous précise la nouvelle ligne éditoriale qu'elle comptait faire appliquer dans le magazine dont elle était récemment devenue la rédactrice en chef. J'aimerais que personne ne soit blessé par nos contenus.
Et oui, ça aussi, ça a été une grande épiphanie. Je dis, où est-ce qu'on. On en est arrivé là, en fait.
C'est l'inverse de Charlie. C'est au-delà de ce qu'on dit de Charlie.
Quoi,
ouais. Vous citez à un moment donné chez Luz, je crois que vous citez dans le livre de Charlie Hebdo, pour aller au-delà même du certain consensus qu'on a eu certains autour de Charlie et de ceux qui disent encore aujourd'hui je suis Charlie, mais qui n'ont pas compris que. Ils ne peuvent pas être Charlie s'il y a un mais derrière, clairement. Alors, il y a toute une partie aussi, Peggy Sastre, dans le livre, je remonte à la caméra, ce que je veux sauver, édition Anne Carrière, il y a toute une partie sur le féminisme. Et vous, j'ai envie de vous demander d'abord comment s'est construit votre féminisme. Il y a des épisodes extrêmement douloureux, personnels, que vous racontez dans le livre. Il y a le viol dont vous avez été victime, il y a un avortement, il y a ce que connaissent malheureusement beaucoup de femmes. Mais vous, la manière que vous avez de le raconter, d'y réagir, c'est différent et c'est ne plus être uniquement en position de victime.
Totalement. Après, la construction de mon féminisme, il n'y en a pas eu, parce que moi je suis née dedans, je baignais dedans,
oui,
comme l'autre. Je dis souvent que je suis féministe par défaut. Pendant très longtemps, je n'ai même pas eu... De conscience que je vivais, que j'étais, que mes parents étaient féministes. Et c'est ensuite, justement, par la confrontation de qu'est-ce que ça fait de rencontrer, de se confronter à des choses qui sont justement pas féministes dans le sens où il y a une différence de droit et de statut entre hommes et femmes. C'est là qu'on voit la force et encore une fois l'efficacité du modèle. Donc pour le coup le viol et l'avortement sont assez différents,
oui,
parce
bien
que
sûr.
Parce que l'avortement ça a été un moment où je me suis dit heureusement que je vis là, heureusement que je vis en France, heureusement que je vis dans une société où l'avortement est possible,
parce
etc.
que vous le redonnez en chiffres, et j'ai lu d'ailleurs à ma fille, qui est une jeune fille, j'ai dit voilà, en France, dans le monde entier, une femme meurt toutes les 9 minutes d'avortement clandestin.
C'est ça.
Toutes les 9 minutes, une femme dans le monde.
Et c'est l'un des trucs fondamentaux que les anti-avortements acharnés ne comprennent pas ou feignent de ne pas comprendre, c'est que dans tous les cas ils vont pas sauver les fœtus, en fait. vu que la femme va crever d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, l'avortement c'était la prise de conscience. Heureusement que je suis là. Heureusement que je suis dans ce pays avec cette législation, etc. Et le viol, ça a été, pour le coup, ça a été la rencontre du féminisme militant, orthodoxe, j'aime bien ce terme pour les définir, où justement, dans un cercle de paroles entre femmes victimes de violences sexuelles, je me suis rendu compte qu'à leurs yeux, j'étais pas la bonne violée, quoi. J'étais pas une bonne justement parce que j'étais pas une bonne victime. Et ce qu'elles voulaient, c'était justement créer des victimes. Et en fait, créer des femmes qui sont détruites et destructibles, en fait.
Et qui ont été détruites par cela.
Ouais.
Mais la manière dont vous avez réagi dans ce groupe de paroles et après, ce qui vous est arrivé, toutes les femmes ne peuvent pas réagir comme ça.
Bien sûr,
ça. Et en même temps, pour celles à qui c'est arrivé malheureusement, la lecture de ces passages dont vous en parlez dans le livre peut aussi donner une clé différente de ce qu'elles entendent en permanence.
Parce que c'est ce que j'ose... j'ose espérer que ça puisse aider, ne serait-ce qu'à voir les choses autrement. Ça, c'est quelque chose que, à la fois, j'aime, moi, quand je change d'a priori, quand je crois savoir et qu'en fait, je ne savais pas, ou quand j'ai la possibilité d'avoir un autre point de vue, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose, intellectuellement, j'adore. Et donc, par extension, c'est ce que j'aime provoquer chez autrui.
Parce que peut-être vous aussi, vous aviez les ressources, on va dire, intellectuelles pour arriver à, à réagir, à penser comme ça. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est peut-être, non pas ce que vous aviez voulu sauver, mais ce qui vous a sauvé un peu.
Oui, sans doute, ouais. Mais là où l'élément sur lequel j'insiste aussi beaucoup, souvent, c'est que je me pose pas un modèle. Je dis pas tout le monde devrait faire comme moi.
Oui,
mais je dis, il est possible que des gens soient comme moi et c'est pas grave. Enfin,
et vous n'avez pas à vous en vouloir, de ne pas vous sentir victime non plus. Parce que c'est aussi ça, le féminisme orthodoxe.
Bien sûr.
Je vais la reprendre celle-là. aujourd'hui, c'est bien évidemment ne pas parler des femmes israéliennes, bien évidemment croire toutes les femmes sauf les israéliennes, et c'est avoir cette posture après MeToo, dont vous parlez aussi largement dans le livre, et je renvoie aussi à l'autre excellent livre de notre amie Caroline Forest. C'est cet angle-là aussi que vous dénoncez dans ce féminisme orthodoxe qui crée quand même pas mal de soucis, on va dire ça comme ça, au mieux, voire même provoque des suicides. Hein.
Tout à fait, oui, il y a une sorte de victimisme, de gain à être victime et de chasse aux sorcières toute cette dégénérescence en fait de cette merveilleuse cause qu'est le féminisme et qui aujourd'hui est encore une fois contre-productive.
Comment on fait alors pour apprendre le féminisme non orthodoxe aux jeunes filles aujourd'hui? Je ne sais pas si vous êtes maman, si vous avez des nièces, des jeunes filles autour de vous. Comment on leur apprend ce féminisme non orthodoxe quand elles sont parfois polluées féminisme autour d'elles et sur les réseaux sociaux et sur... C'est compliqué.
Bah, c'est vrai,
je ne sais pas que c'est aussi compliqué que les premières féministes des années 70. Mais du coup, on a un autre job là.
Ah oui, c'est très compliqué, et d'autant plus pour moi où j'ai pas vraiment j'ai pas un don de pédagogie, c'est le moins qu'on puisse dire. oui, c'est très compliqué, mais heureusement, comment dire, à mon petit niveau, j'ai quand même l'impression que le féminisme orthodoxe n'est pas aussi puissant qu'il en a l'air, et que les jeunes femmes ont un espèce de bon sens qui sur ce point me rend assez
optimiste. On va dire ça comme ça. Il y a plein de choses dont on peut pas parler. Mais il y a beaucoup de comparaisons aussi, beaucoup de citations par rapport aux États-Unis. Et vous avez raison, parce que c'est vrai que voilà, là on est à ma mince, on enregistre cette émission, donc on a déjà un président ou une présidente aux États-Unis. Mince alors. Donc je vous pose pas la question. Vous pouvez faire un pari, ça peut être assez drôle. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses et sur la politique américaine, surtout sur la société américaine et sur leur vision, on l'a dit, de la liberté d'expression et sur d'autres domaines. Et puis vous parlez de Kevin Spacey aussi, ça c'est quand même assez dingue. Kevin Spacey qui a été accusé par de nombreuses personnes, qui a été innocenté.
Ouais.
Et objectivement certains innocenté. Qui disent, peut-être qu'il est... moi je pense qu'il est toujours coupable et que...
Oui.
Et si où est le droit, où est la justice?
Oui, c'est la grande question. Si j'avais écrit ce livre plus tard qu'il n'a été écrit, j'aurais parlé du cas Ibrahim Malouf.
Oui.
Ibrahim Malouf, c'est quand même incroyable. C'est qu'il y a eu une décision de justice, et non, c'est pas suffisant. C'est l'accusation
à vie.
L'accusation à vie, l'accusation vaut condamnation. Et ça, c'est l'un des... C'est pour ça aussi que je détaille beaucoup ce pilier-là de la civilisation libérale dans le livre. C'est le droit, quoi. C'est les règles de droit sont pas là par hasard, en fait, parce que justement ça c'est mieux avec que sans, et sans les règles de droit, donc par exemple l'accusation vaut condamnation, c'est civilement, sociétalement, c'est invivable.
C'est invivable et c'est avec effectivement les condamnations aujourd'hui à part les réseaux sociaux, avant même le tribunal. On ne voit pas comment on peut arrêter cela avant, parce qu'il suffit d'avoir une suspicion.
Bien sûr.
Y a un nombre de cas chez les personnalités, chez certaines personnalités il y a quelques temps. Je ne les citerai pas parce que c'est des personnalités qui n'ont pas été condamnées,
bien
ça n'a pas été jugé. Donc le simple fait, aujourd'hui, si je les cite à
bien
la radio,
sûr, c'est déjà.
Sauf qu'effectivement, comme vous le dites de manière très, très juste, MeToo, ça fonctionne pour les personnalités, mais vous dites, dans certaines couches de la population,
non, ça ne marche pas.
Les plus pauvres,
ça ne marche pas.
L'agriculteur, il n'y a pas le MeToo.
Non, il n'y a pas ça. C'est parce que c'est un phénomène de purge intra-élite. C'est MeToo est un moyen d'expurger des concurrents et de grimper les échelons sociaux plus vite qu'on ne l'aurait fait de manière avec ses simples compétences, en fait. Et c'est sûr que quand on le lit comme une purge, comme il y en a eu à plein d'époques et dans plein de contextes différents, mais toujours à peu près pour les mêmes raisons, les choses s'éclairent.
Ouais, ça s'éclaire drôlement. Alors, dans le dernier chapitre du livre, Peggy Sastre, ce que je veux sauver, aux éditions Anne Carrière, le dernier chapitre, c'est Benjamin. Il vous dit, depuis le 7 octobre, j'ai le tourni. Le plus grand massacre de juifs commis depuis 1945 s'est accompagné par une hausse, non pas inédite, mais renouvelée d'antisémitisme aux quatre coins du monde, y compris dans ces régions développées, libres et démocratiques. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on vit depuis effectivement un an et quelques, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit un petit peu partout. Et donc, vous parlez de Benjamin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Benjamin et pourquoi conclut-il et devait-il conclure votre livre?
Donc, justement, Benjamin Ferring, j'en parlais tout à l'heure, c'est le procureur, l'un des procureurs du procès de Nuremberg et qui, très précisément, s'occupe du dossier des Einsatzgruppen, donc des commandos de la mort. En fait, la Shoah par balle dans les Pays-Bas, les pays de l'Est, très généralement sur le front de l'Est. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais quand j'ai découvert il y a une grosse dizaine d'années l'existence de cet homme et ce qui ensuite la suite de sa carrière, il a contribué à la création de la, je m'en rappelle jamais, je crois que c'est la CPI,
Cour pénale internationale,
voilà, avec justement cette croyance qui est plus qu'une croyance, qu'en fait, qui c'est un constat sur la nature humaine qui est n'importe qui peut devenir un barbare. La guerre a ce pouvoir magique de rendre n'importe qui sanguinaire. Et c'est ce qu'il avait vu avec les Einsatzgruppen, c'est que les Einsatzgruppen, c'était parmi les nazis les plus surdiplômés de tous les nazis. Il y avait un type qui avait deux doctorats qui, pendant trois jours, a massacré je ne sais plus combien de milliers de juifs à main nue. Des raisonnements de rationalité complètement folle de ce chef de dignitaire qui dit on va tirer les bébés quand ils sont dans le giron de leur mère, parce que comme ça fait une seule balle et ça calme tout le monde. Parce qu'il expliquait, quand vous faites un massacre dans les ravins, etc., tout le monde crie, etc. Voilà. Vous visez les bébés dans le cœur de leur mère, ça ira plus vite et ça calme tout le monde. Et voilà, donc Ferencz avait vu ça, avait vu que la guerre, c'est pas, il y a certaines personnes sur lesquelles ça glisse et d'autres personnes où ça exacerbe. Non, tout le monde. La guerre transforme tout le monde. Peut transformer tout le monde en massacreur. Et donc, la solution, c'est le droit. Donc, c'est ce que je détaille plus précisément dans le livre. Et c'est pour ça que j'ai voulu finir sur lui, parce que c'est l'un des premiers, c'est l'un des premiers qui m'est venu à l'esprit quand j'ai recommencé laborieusement à articuler les choses. Où j'ai littéralement été contente qu'il soit mort, pour qu'il ne voit pas toute l'œuvre de sa vie détruite en un quart de seconde.
parce que c'est ce qui est aussi extrêmement douloureux, Peggy Sastre, pour tous ceux qui essayent de penser effectivement au-delà, contrairement à ce que disent les bonnes âmes sur la guerre, etc. Quand on essaye de penser effectivement un petit peu plus loin, ou même avec un petit peu plus avant, de se dire comment tout cela va-t-il pouvoir évoluer ? Est-ce que on va retomber dans ce qui était après la Shoah, ces périodes de pensée du plus jamais ça, du mémoriel, est-ce que ça ne sera que ça ? Ou est-ce que il faut effectivement tout balayer et tout rebâtir, mais
tout remettre
ça,
à plat,
dit,
tout remettre à plat,
c'est costaud, quoi.
Bah oui, c'est ça aussi qui fait la beauté, qui fait la beauté du système libéral, c'est que ce n'est jamais acquis, c'est jamais acquis, et c'est un modèle qui a en lui-même les germes de sa propre amélioration. Et pour moi, je pense que c'est assez inédit dans l'éventail des créations humaines d'avoir réussi à concevoir, voilà, cette panacée, mais en fait justement c'est pas une panacée, c'est pas magique, c'est du travail, c'est de la sueur, c'est du sang, c'est des larmes, pour citer l'autre. Mais c'est ça aussi qui est bien.
Pour conclure, Peggy Sastre, il y a c'est une méthode, moi, que je trouve pas mal du tout, parce qu'effectivement, on est tous en train de se poser des questions, mais comment faire en sorte que les gens ne soient pas antisémites ? Comment faire en sorte que les gens comprennent le sionisme ? Comment faire en sorte que les gens comprennent ce qu'est l'État d'Israël sans pouvoir tous les prendre dans un avion et leur montrer ? Ce que généralement, ceux à qui on a fait ça marche bien.
Oui,
hein.
C'est vrai.
Vous dites, grosso modo, il faudrait faire des listes. Ça, on prend un papier, deux listes, tu écris simplement quelles sont tes valeurs, et tu vois qui d'Israël ou du Hamas, soyons clairs, se rapproche le plus de tes valeurs. Et vous dites, le pays où sont organisées des élections, dans lesquelles plusieurs partis ont le droit de concourir, où la séparation des pouvoirs est mise en œuvre, le seul endroit où les individus, qu'importe leur couleur de peau, leur origine ethnique, leur religion, leur orientation et leur identité sexuelle, peuvent vivre sereinement, tout musulman, parce que toute personne y a droit de citer une réciprocité que l'on ne trouve nulle part ailleurs au Proche-Orient. Donc en fait, on fait ça quand on est avec quelqu'un en face, on lui dit c'est quoi tes valeurs, et puis tu les mets.
Voilà.
Est-ce que tes valeurs, c'est de voiler les femmes, de contraindre les femmes, jeter les homosexuels du haut de la tour, terroriser les gens, de tuer les bébés, voilà. Ou est-ce que c'est ça tes valeurs?
Oui, ça, si...
on peut tenter le coup comme ça.
On peut tenter le coup comme ça, et c'est vrai que très, très généralement, pour moi, c'est une bonne méthode de forcer les gens à appliquer leurs croyances, en fait.
On est mal barré. Ce que je veux sauver, c'est aux éditions Anne Carrière. Peggy Sastre, merci beaucoup. Livre d'après, c'est quoi ? C'est ce que j'ai réussi à sauver, ou on verra ce qu'on aura réussi à sauver dans quelques temps.
Moi, j'ai un grand projet, c'est de faire une histoire très très large, et en fait une histoire psychologique des chasses aux sorcières. Pourquoi est-ce que ça revient toujours sur les mêmes personnes, à la fois qui sont cibles et qui sont chasseurs, et comment est-ce que ça revient toujours à peu près dans les mêmes époques?
Bon, grosso modo, pourquoi le bouc émissaire, c'est toujours les Juifs?
Voilà.
Grosso modo. Très bien. Si vous avez la réponse, vous reviendrez, parce que ça nous intéresse aussi. Merci beaucoup, Peggy. Ça, ce que je veux sauver, c'est aux éditions Anne Carrière.
C'est Laurent Couson. Retrouvez mon nouvel album Night Music, disponible sur toutes les plateformes. Night Music, c'est un album de piano solo, enregistré en quelques nuits, qui regroupe de nouvelles versions de mes thèmes de musique de film et des nouveautés. Un album intime, méditatif, amoureux. Night Music, mon nouvel album, c'est pour vous.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme nous fredonne de vieilles mélodies. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi t'es sa lourde garçonne, ronfies un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À l'heure de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme mon frontaine, la vieille mélodie. À la faveur de l'automne, tu me donnes à ma mélancolie. Ces couleurs de super scopy.
D'écouter RCJ.
Bonjour, c'est Marc Wilinski. Je vous retrouve un vendredi sur deux, de 12h à 13h, pour l'air du temps. Une série de débats en live sur les questions, les peurs et les espérances de notre société. L'air du temps, c'est vendredi à 12h, en direct sur RCJ.
Derrière elle, des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. De ton nom, tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts. Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels.